Bienvenue dans la troisième saison de Dessine-moi un corps. Et oui, déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept, c'est un épisode, une fois par mois, sur une thématique liée au corps et à l'histoire des arts. Bonne écoute! Bisous! La barbe au ciel et la mémoire sur mon dos, le pinceau toujours devant les yeux, goûtant, fait de moi un riche pavement. Les reins me sont restés dans la panse et le cul par contrepoids s'est fait croupe et les pieds sans les yeux avancent en vain. Extrait du poème de Michel-Ange consacré à son travail sur le chantier de la voûte de la chapelle Sixtine, décrivant comment la peinture lui coule sur le visage. Comme le dit très bien Frédéric Cousinier, auteur de l'ouvrage « Esthétique des fluides » sur lequel je me suis appuyée pour écrire cet épisode, il faut distinguer les fluides que l'on utilise comme matériaux à part entière et la représentation de ces faux fluides que l'on utilise comme subterfuge pour donner l'illusion de ces fameux fluides. Vous m'avez suivi ? La nuance est à bien prendre en compte. En écrivant cet épisode, je ne m'étais pas rendu compte de l'océan dans lequel je foutais les pieds. L'histoire des fluides est tout simplement passionnante et nécessite plus d'une heure d'épisode, voire un séminaire, voire un colloque entier. C'est pour ça que je vais uniquement, comme d'habitude, vous entrouvrir une fenêtre afin de vous donner envie d'en savoir plus, une sorte de vulgarisation scientifique, comme un très bon ami m'a dit récemment. Et je suis plutôt d'accord avec cette définition. Maintenant, pour planter le décor, on va parler de trucs très ragoûtants, mais diablement intéressants. Sang, urine, larmes, lait maternel, sueur, sperme. Allez, c'est parti, épisode numéro 57. Bonne écoute! Les fluides convoquent simultanément la mystique, l'érotisme et la politique aussi. Humeur fondamentale du corps humain, les fluides font partie de nous, nous définissent et possèdent de nombreuses symboliques et vertus à travers les époques. Il est donc tout à fait logique qu'on cherche à les représenter en art, que ce soit de manière falsifiée ou matériau indispensable de l'œuvre. L'un des tout premiers fluides à être représenté est le lait. Fluide féminin par excellence et premier aliment de l'enfant, il est partout l'objet d'un investissement symbolique à la fois primaire, animal, sacré et érotique parfois. À l'image des autres humeurs, il n'échappe pourtant pas à l'ambivalence et ses attributs relèvent, selon les situations, tantôt du masculin, tantôt du féminin. Dans bien des mythologies relatant la genèse de l'univers, des contes africains à certains récits indiens en passant par l'Antiquité grecque, le lait est une humeur primordiale, faisant référence à la création des mondes et de toute forme de vie en fait. C'est ainsi que le lait des déesses, Galactos, passait pour avoir semé des champs d'étoiles dans le cosmos et que la voie lactée aurait jailli selon la légende des mamelles de la reine des dieux Héra, d'où vient son nom voie lactée, considéré comme le lait maternel par essence divine. La légende dit qu'une simple gorgée peut faire d'un bébé un surhomme immortel. D'ailleurs, la marque Héra du nom de la déesse a été donnée à une célèbre poudre de lait pour bébé. On retrouve cette scène très connue dans le tableau « L'origine de la voie lactée » peint par le Tintoret, par exemple, pour n'en citer qu'un. Parfois, le lait devient la matière même de l'œuvre, par exemple chez le plasticien Sarkis ou encore chez Marina Abramovic, qualifiée d'ailleurs de performeuse sataniste pour avoir réalisé des mélanges mélangeant le sperme et le lait. Vont alors se superposer l'iconographie de l'allaitement. En dehors des fameuses scènes religieuses de la Vierge lactatrice allaitant l'enfant Jésus, il y a une bien curieuse histoire, et si vous voulez mon avis, un poil glauque. Une légende raconte que l'abbé fondateur des cisterciens, Saint Bernard de Clairvaux, a reçu un jet de lait directement du sein de la Vierge. Ou encore le mythe de la charité romaine, où le vieux Simon, emprisonné et condamné à mourir de faim, est secrètement nourri au sein de sa fille Perrault. Burke, archi-Burke. Ces scènes sont maintes fois reprises dans l'iconographie religieuse. C'est assez curieux d'ailleurs, puisque comme on le voit à de nombreuses reprises, la représentation de ce fluide ne pose aucun souci au clergé. Les scènes d'allaitement sont nombreuses depuis l'Antiquité romaine, on pense notamment à la louve de Rémus et Romulus, alors que justement, la poitrine dévoilée était plutôt controversée ou admise uniquement pour certaines iconographies. Si représenter le lait de manière visible et clairement identifiable est donc chose plutôt commune en histoire de l'art, même s'il y a des ambivalences notables, le cas des larmes est un peu différent. La première représentation des larmes date du XVe siècle et dans un contexte bien précis. J'en avais d'ailleurs parlé dans un épisode un peu ancien sur les émotions avec l'apparition des vierges de douleur en art qui pleurent la mort du Christ. D'ailleurs, si on remarque depuis le départ, les humeurs représentées proviennent de prime abord de l'iconographie biblique. Plus tard, on en vient même à peindre avec des larmes, comme le fait cet artiste argentin contemporain Leandro Granato. En utilisant le canal lacrymal qui relie le nez avec les yeux, le peintre respire un produit coloré avant de sangloter sur sa toile et crée ainsi des œuvres pour le moins originales. Celui qui rafle tous les suffrages, maintes fois représenté ou imité, suggéré, c'est le sang. Le sang fascine, repousse ou terrorise. Il représente aussi bien la vie que la mort, le sacré que l'impur. S'il revêt une connotation archaïque, il déborde aussi d'associations fortes et contradictoires. Symbole de vie qui représente à la fois la force, d'une part, et la vulnérabilité, et la mort, d'autre part, mais aussi l'honneur en même temps que l'impureté et le péché, la souffrance et la soumission à la volonté de Dieu en même temps que la révolte contre celle-ci. Vous vous y retrouvez ? En dehors des traditionnels effets spéciaux de sirop de maïs mélangé avec des colorants alimentaires dans les films d'horreur des années 80, le sang fait partie des fluides les plus représentés. Et dans les représentations en art, il est frappant que ce soit généralement les hommes que l'on voit saigner dans des scènes religieuses ou dans des scènes de combat. Au Moyen-Âge, le caractère sacré du sang du Christ suscita une vénération, telle que parallèlement au culte des reliques de ce précieux sang, la vénération des plaies. Le tableau de Philippe de Champaigne, Christ mort couché sur son linceul peint en 1650, ou encore le Saint-Sébastien de Andrea Mantegna dans son martyr, le corps criblé de flèches et de plaies sanguinolentes, en sont des exemples probants. Symbole de fécondité, on l'associe également à des mythes, comme par exemple celui de la naissance de la déesse de l'amour, Aphrodite. Émasculant son père pour prendre le pouvoir, Cronos jeta les bourses tranchées par-delà l'horizon, et une dernière fois, Uranos féconda Gaïa, la déesse de la terre. De la semence et du sang entremêlés, jaillirent les géants et les Énéries. Puis les bourses retombèrent dans la mer, et de l'écume apparut Aphrodite. Si le sang a une signification forte dans l'art et les rites de la société, il est également un sujet tabou dès lors qu'il s'agit du sang menstruel, à la fois pouvoir mystérieux de donner la vie et l'un des symboles les plus invisibilisés. Rendre visible le sang menstruel dans l'art est ainsi un acte à la fois esthétique et politique. Il faut distinguer d'une part la représentation du sang dans l'art féministe des années 70, d'une mutilation volontaire du corps comme chez Anna Mendieta et Gina Payne, et d'autre part la représentation du sang menstruel particulièrement mis en évidence dans le travail de l'artiste Judy Chicago par exemple. La visibilisation du tampon imbibé de sang écarlate joue un rôle important. On le retrouve notamment dans ses œuvres Red Flag et Menstruation Bathroom. De là à parler de normalisation et de démystification, il faudra encore du temps, le tabou reste quand même prégnant en histoire de l'art. Je peux citer aussi le travail, car je l'aime beaucoup, de Zawele Moholi. Sa réponse à ces crimes de haine violents est artistique. Depuis 2006, elle collecte et photographie le sang de ses menstruations pour créer une œuvre singulière. Elle a baptisé son projet Isilumo Siyaluma, une expression zoulou qui signifie « douleur menstruelle ». C'est sa façon à elle d'exprimer sa colère. Chaque mandala est en effet un hommage à une victime de ces crimes haineux ou à une survivante. Son œuvre ne se centre pas autour des douleurs menstruelles en soi, mais utilise le sang comme fil conducteur symbolique. Elle a choisi le sang de ses lunes car il provient de l'espace sacré de nos utérus qui nous caractérise universellement en tant que femmes. C'est l'espace à travers lequel nous venons au monde, nous donnons la vie, et c'est ce même espace qui est violenté. Le sang devient alors celui des victimes et le sang témoin. « Je saigne donc je suis », a dit Nancy Houston. Dans la danse des fluides, l'urine n'est pas en reste. En Belgique d'abord, mais aussi en Italie, on assiste à une véritable recrudescence des anges pisseurs, visibles un peu partout, même si partiellement cachés. Cachés dans les tableaux religieux, les bas-reliefs en bois, les pierres sculptées, les illustrations dans les manuscrits, les sculptures de fontaines, bien sûr. En peinture, donc, on a pléthore de scènes de ce genre. On retrouve notamment le motif du pisseur chez Lorenzo Lotto, un artiste italien du XVIe siècle, friand d'énigmes. Dans chacun de ses tableaux se cachent des symboliques, par exemple dans le tableau intitulé « Vénus et Cupidon ». Pour peindre cette œuvre, Lorenzo Lotto puisa dans les poèmes classiques de mariage. Il s'agit d'ailleurs vraisemblablement du thème de ce tableau. Vénus a peut-être même les traits de la mariée. Le coquillage au-dessus de sa tête et les pétales de rose sur son corps sont les attributs traditionnels de la déesse. Le lierre évoque la fidélité conjugale et la couronne de myrte, ainsi que le brûle-parfum qui est suspendu symbolise la chambre nuptiale. Vénus porte les boucles d'oreilles et le diadème d'une mariée du XVIIe siècle. Le geste de Cupidon qui urine à granger à travers la couronne est un présage de fertilité qui ajoute une légère touche d'humour à cette image à caractère plutôt intime. Je pense à un de mes artistes favoris que j'ai vu récemment à Madrid pour la première fois et qui m'a suscité pas mal d'émotions. Jérôme Bosch, qui dès le XVe siècle nous montre des scènes avec des personnages déféquants ou se pissant les uns sur les autres. Certains vomissent même. Mais ça, je vais éviter d'en parler dans l'épisode pour garder un maximum d'auditeuristes quand même. Notons tout de même que la représentation de ces pisseurs sont tous de sexe masculin, mettant leurs membres virils en action. À travers l'art occidental classique, la représentation de jeunes femmes ou de jeunes filles pissant est plutôt rare, ou alors uniquement vue dans une iconographie à vertu érotique, comme c'est drôle, tiens, dans les scènes de toilettes intimes par exemple. Le regard du voyeur est alors omniprésent. Le XXe siècle va légitimiser ce genre de représentation et enlever toute charge excitante à la représentation de la pisseuse, jusqu'à ce que Kiki Smith s'empare totalement du sujet avec son modèle en cire Pier Body, représentant une femme nue accroupie qui pisse des perles de verre, rien que ça. En 1977, Andy Warhol était déjà Andy Warhol. Et malgré cela, le maître du pop art cherchait à renouveler sa pratique artistique jusque-là très figurative. C'est dans l'abstraction qu'il trouvera l'inspiration, car il lui fallait quelque chose de plus radical et de plus organique. Pour mener à bien son projet, il aura besoin de l'aide de ses amis et assistants, ou plutôt de quelques fluides corporels leur appartenant, à savoir de l'urine et du sperme. Sont alors nées les peintures de la série Oxidation. Et lorsque Marcel Duchamp recrée la Voie lactée en répandant son sperme sur une pièce de satin noir, il favorise lui aussi l'assimilation du sperme aux étoiles, donc au divin. Délire mégalo-masculiniste un petit peu. C'est intéressant de remarquer qu'auparavant dans le domaine pictural, une représentation du sperme est interdite, voire inimaginable sous ses formes. Si la peinture mythologique des amours des dieux devient alors à la Renaissance le lieu privilégié de la représentation érotique, voire pornographique, en aucun cas semble-t-il, un imaginaire du sperme pouvait y trouver un espace libre et explicite. Trigger warning. C'est notamment pour cet interdit que pour représenter le moment du symbolisme sexuel lors de la représentation du viol de Danaé par Zeus, le sperme et la personnification de Zeus sont représentés par la pluie d'or, comme ici sur ce cratère en cloche de Béotie, datant de 450-425 avant Jésus-Christ. Je ne vais pas non plus rentrer dans le genre scato, mais l'histoire de l'art compte aussi des machines à faire de la merde de William Delvaux, par exemple, ou encore les boîtes de merde de Piero Manzoni, ou bien les photographies de Andrés Serrano, de la digestion à la transgression, pour énoncer une formule connue. Les fluides sont là aussi pour raconter des histoires, ou dans le cas précis, une histoire. C'est le cas de l'artiste Tracy Emin avec son œuvre My Bed, réalisée en 1998. Derrière les plis et les draps blancs de ce lit se cache une histoire intime de dépression, d'addiction et de violente rupture, celle de Tracy. Il s'agit d'une installation présentant le lit défait de l'artiste, entouré d'objets intimes, dans un délabrement absolu. Pour coller au maximum au réel, Tracy Emin a maculé ses draps de véritables fluides corporels et a placé des culottes tachées de son propre sang menstruel, des préservatifs et mouchoirs usagés, du lubrifiant et autres objets et déchets domestiques. Tout est réel et personnel. L'artiste fait valoir le fait que le lit a été quasiment exporté dans son état originel et qu'elle n'a plus rien bougé. Un autoportrait en forme de lit, grâce à des fluides. Incroyable. Parler de fluides pendant cet épisode m'a donné envie d'en apprendre encore plus sur le sujet. Je vous ai concocté une petite bibliographie non exhaustive à consulter si ces sujets vous parlent autant qu'à moi. Les fluides nous donnent à voir une vision décalée de l'histoire des arts, pas vraiment connue, un peu tabou il faut bien le dire, car on n'est jamais très à l'aise avec les pipis, caca, popo et autres fluides qui nous composent. Parfois même, le gore s'invite avec les fluides corporels. J'ai volontairement évité de parler de l'aspect pornographique et de l'exhibitionnisme parfois spectaculaire que peuvent entraîner ces fluides et les corps souillés, parce que ce n'était pas un sujet que je maîtrisais assez. Néanmoins, vous avez, je pense, saisi l'importance de ces fluides et ce que ça véhicule en termes de représentation de la sexualité. À la fois sujet esthétique et lourd de sens, détenteur de vérité, vecteur de politique et d'identité, les fluides n'ont pas fini de nous en apprendre plus sur nous-mêmes. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se revoit très vite pour un tout nouvel épisode sur un thème très différent mais qui me donne déjà envie de vous teaser. Bon, j'arrête. Prenez soin de vous et à la prochaine !